Phil PN Paranormal.
The flying disc has been found.
El Mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Christian Page, salut.
Salut Bernard.
Alors, il paraît que les fantômes ont une odeur.
Oui. Écoute, c'est, à mon avis, encore une fois, une date, en fait, à marquer avec une pierre blanche dans l'univers du paranormal, parce qu'on arrive... Moi, j'adore lorsque la science fait de la bonne science avec des trucs qui sont un peu considérés comme surnaturels. Parce que très souvent, l'attitude de la science, c'est de dire, bon, quelqu'un rapporte avoir vu un fantôme ou un truc comme celui-là, et on dit, bon, ben, ces gens-là sont un petit peu désilluminés, ils ont trop fumé de potes ou des trucs comme ça.
Ouais.
Et parfois, on arrive à faire de la bonne science, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui se disent, tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe, et c'est exactement ce dont je veux te parler aujourd'hui. C'est un article qui vient tout juste de paraître dans le très prestigieux Journal of the American Medical Association, donc l'association médicale américaine. Et on parle ici des fantosmies. Donc, qu'est-ce que c'est les fantosmies? Ce sont des odeurs fantômes. Donc, je t'explique un peu de quoi il s'agit.
Des odeurs fantômes.
Oui, voilà. Dans le domaine du paranormal, les odeurs fantômes sont souvent associées à des moments de crise. Et là, je veux pas jouer l'oiseau de mauvaise augure, mais imaginons, par exemple, que ta mère décède, et quelques jours après son décès, tu t'éveilles dans la nuit et tu sens l'odeur de son parfum. Alors là, évidemment, tu auras tendance à associer cela à la présence de ta mère, un retour de l'au-delà. Donc, ta mère qui t'envoie un signe de l'au-delà.
Dans
la littérature et la culture paranormale, ce genre de phénomène-là se produit dans des états de détresse psychologique, en particulier, par exemple, dans des états au moment où tu vis un deuil. Dans le domaine de la science, on savait déjà que des odeurs fantômes pouvaient exister, que des gens, par exemple, qui souffrent d'épilepsie, racontent qu'avant une crise, il leur arrive parfois de sentir l'odeur des toasts brûlés.
Elle peut répéter ça, là?
Oui, il y a des gens qui souffrent, les gens qui souffrent d'épilepsie, parfois, avant une crise, vont sentir une odeur de toast brûlé.
Okay.
Parce qu'il faut comprendre ici comment fonctionnent aussi les odeurs, hein. Donc, l'odeur va titiller un peu tes capteurs olfactifs dans ton nez, va envoyer un message à ton cerveau, que ton cerveau va décoder en disant ceci est une odeur de citron ou une odeur de fraise. Mais l'odeur, en réalité, elle est dans ton cerveau, tu comprends? Elle est décantée à partir d'une série de stimuli qui vient de tes capteurs olfactifs. Or, les scientifiques savaient que, par exemple, les gens qui souffrent d'épilepsie vont sentir avant une crise, certains d'entre eux, une odeur de toast brûlé. On savait également que les gens qui souffraient de migraines ou de la maladie d'Alzheimer, ils leur rapportaient parfois sentir des odeurs fantômes, donc des odeurs qui n'existent pas dans la réalité, qui ne sont pas autour d'eux, mais ils avaient l'impression de sentir ça. Alors, l'Association américaine de médecine a décidé de mener une grande étude aux États-Unis. Ils ont interrogé plus de 7000 participants et ils ont découvert à leur grand étonnement que 15% des gens, même s'ils n'en parlaient pas avec leur médecin traitant, 15% des gens sentaient de ces odeurs fantômes. Et qui plus est, l'étude démontre que ces odeurs fantômes non seulement sont plus répandues qu'on pourrait le croire, elles n'ont visiblement rien à voir avec les fantômes, mais qui plus est, ces odeurs sont plus marquées auprès des femmes, des gens qui souffrent d'une mauvaise santé, des gens qui mènent ou qui entretiennent des régimes drastiques, donc qui cherchent à perdre du poids, et ce qui est encore plus significatif, chez des gens qui sont dans un milieu socio-économique défavorisé.
Hein? C'est quoi le rapport?
Ouais, parce que les gens qui sont dans des milieux socio-économiques défavorisés souvent ont une moins bonne santé parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès. Et on parle bien sûr aux États-Unis, là. Hein, ici, c'est un peu différent, le système de santé. Mais on comprend aux États-Unis, avant d'aller voir ton médecin, tu vas essayer de prendre des recettes de grand-mère, là. Alors que les gens mieux favorisés vont plus spontanément consulter les médecins. Donc, ce que les chercheurs arrivent, c'est de dire non seulement ces odeurs fantômes existent, mais de manière beaucoup plus large qu'on le croyait. Elles ne sont visiblement pas des manifestations de l'au-delà.
De l'au-delà, oui.
Mais qui plus est, elles peuvent être des signes avant-coureurs d'un mauvais état de santé.
Donc, ah non, là, on fait œuvre utile. Là, je te suis. Là, je comprends ce que tu veux dire.
Et tu vois, ça, c'est extraordinaire parce que dorénavant, avec une étude comme celle-là, les gens qui sentent ce genre d'odeur auront peut-être tendance plus spontanément à en parler à leur médecin et on pourra en aval peut-être déterminer s'il n'y a pas des problèmes de santé sous-jacents à ça.
En amont.
Alors que jusqu'à maintenant, cette perception d'odeur mystérieuse, mise à part quelques pathologies cliniques, était généralement relayée à l'univers de l'au-delà.
Ah, c'est intéressant. Oui, absolument. C'est très intéressant.
C'est fascinant.
Bon, parlant de cet univers extraordinaire, qui est habité par toutes sortes de créatures, dont le chupacabra.
Ouais, le chupacabra.
Le chupacabra. Moi, j'ai habité au Mexique 2 ans. Hein?
Oui, et tu as
entendu j'en ai entendu beaucoup parler. Je l'ai pas vu. Écoute, je l'ai cherché, par exemple. Ben oui, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le chupacabra.
Il est très insaisissable. Donc, le chupacabra, qui je l'appelle pour les auditeurs, signifie le suceur de chèvre. Donc, c'est un animal mythique, en fait, qui est une sorte de mélange entre un kangourou et une gargouille.
Oui, oui.
Il, depuis longtemps, et tu le mentionnes, il fait partie d'une espèce de culture hispanophone. Dans la culture espagnole, c'est un peu l'équivalent...
Latino.
Un peu un bonhomme, un peu le bonhomme 7 heures, une créature fantastique. Et depuis 1995, on en parle plus abondamment dans la littérature populaire parce qu'il y a eu une série de morts d'animaux de ferme au milieu des années 90 sur l'île de Porto Rico qu'on a accusé, bien sûr, on a pointé du doigt l'El Chupacabra. Mm. Et depuis, la mystérieuse créature ne cesse de faire des victimes. Alors voilà que l'histoire dont je te parle s'est produite il y a quelques jours. Ça se passe à Santa Fe. C'est un petit village dans le nord-est de l'Argentine. Et voilà qu'un agriculteur, un matin, en sortant de chez lui, voit 6 de ses vaches qui sont mortes dans un champ. Oh. Alors, évidemment, il s'approche, il constate que les vaches, non seulement sont mortes, mais elles ont été également mutilées, mais il n'y a pas de traces de prédation, c'est-à-dire que l'animal est étendu sur le côté, il lui manque un œil, il lui manque la langue, les parties génitales ont également été amputées et il n'y a apparemment pas de sang autour de l'animal. Alors, évidemment, cette histoire-là se répand comme une traînée de poudre dans le village.
Parce que c'est un suceur de sang.
Parce que c'est un suceur de sang, et c'est vrai qu'au cours des semaines qui ont précédé, d'autres animaux sont morts un peu de la même façon. Et bien sûr, on ne peut accuser que deux sources. Ou ce sont les extraterrestres. Ça me fait penser qu'il y a un physicien qui avait écrit un bouquin sur les extraterrestres qu'il avait intitulé « If in doubt, blame the alien ». Donc, si tu doutes, accuse les extraterrestres. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc, on est dans le doute, on accuse les extraterrestres. Ou bien sûr, encore, le mythico El Chupacabra.
C'est sûr.
Évidemment, on a contacté les autorités locale pour les informer de ces morts. Et d'après les scientifiques, tout ça n'aurait rien à voir avec quelque chose de mystique ou de mystérieux.
Ah, tu me
surprends. En fait, les biologues... Tu m'étonnes, Bernard!
Oui, c'est ça.
Tu m'étonnes! Donc, les biologistes, eux, soutiennent que les animaux sont morts de leur belle mort, ce qui arrive finalement de manière assez soutenue en cette période de l'année, souvent par déshydratation, par des épidémies qui touchent les bovidés. Donc, les bêtes seraient mortes de leur belle mort. Il faut quand même savoir que les agriculteurs ne vont pas dans leur champ tous les jours. Donc, la vache ou le bœuf en question peut être mort depuis quelques jours avant qu'on découvre sa carcasse.
Oui, mais l'ablation, là.
Voilà, les ablations.
Les yeux, la langue, les organes génitaux.
Ça semble mystérieux, mais d'après les biologistes, le responsable, ce serait, et là, excuse-moi pour ma prononciation espagnole, ce serait l'ossicudo. Et qu'est-ce que l'ossicudo? Je le vois déjà sur ton visage, questionnement.
Oui.
C'est un petit prédateur. En fait, c'est un petit animal charognard qui ressemble à un rat ou à un mulot. Et d'après les biologistes, une fois l'animal au sol, parce que l'animal est mort, il est tombé, ces petits animaux, ces charognards, vont s'introduire dans la bête par les voies naturelles, l'anus, les organes génitaux, par la bouche, et vont s'attaquer aux chairs molles. Ces charognards vont manger la langue, les yeux, vont dévorer une partie de l'anus, du rectum, donnant l'impression qu'on est en présence d'une espèce de mutilation surnaturelle, alors que ce sont ces petits animaux qui auraient dévoré les chairs. Et ensuite, le gonflement de l'animal par la putréfaction donnerait l'impression qu'on est en présence d'une mutilation faite à coups de laser ou avec un scalpel.
Eh, boboy. OK. Ben,
voilà.
C'est pas très ragoûtant, ton
histoire. C'est pas très ragoûtant.
Alors, on est content.
Pour la petite collation de 15 heures.
On est content de savoir qu'il y a une explication.
Voilà.
Maintenant, je suis certain que le Chupacabra va passer au travers de cette autre affaire. Expliquée scientifiquement. Il a la vie dure, le Chupacabra.
Il a la qualité de rebondir, mais comme c'est un animal qui ressemble un peu à un kangourou, écoute, ce n'est pas les rebondissements qui lui font peur.
Très bien. Alors, en terminant.
Oui.
C'est sur une note plus sérieuse, hein?
Oui.
La mort de Michael
Persinger.
Persinger de l'Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario.
Écoute, très rapidement, Michael Persinger, c'est un neuroscientifique de l'Université de Sudbury. Il enseignait là depuis les années 70. Il est probablement l'un des personnages les plus importants sur le plan scientifique dans l'univers du paranormal. Persinger et d'autres chercheurs comme lui sont un peu les pères de ce que l'on appelle la théorie environnementale, c'est-à-dire que dans ton environnement, il y aurait des facteurs que tu ne vois pas, par exemple des micro-ondes, des variations dans les champs électromagnétiques, des infrasons, donc tous ces éléments-là que tu ne vois pas, que tu ne perçois pas consciemment, pourraient provoquer chez certains individus plus sensibles que d'autres des impressions de présence, des hallucinations auditives ou des hallucinations visuelles qui amèneraient ces gens-là à croire qu'ils sont entourés de fantômes ou d'êtres désincarnés, alors que tout ça ne serait qu'une conséquence de l'environnement sur les individus. Et Michael Persinger avait fait une espèce de casque qu'on appelait le casque de Dieu. J'ai moi-même fait cette expérience-là il y a quelques années. Je visitais Persinger au laboratoire de l'Université Laurentienne. On plaçait ce casque-là sur notre tête, on se mettait dans un isoloir et simplement en faisant varier les champs électromagnétiques qui entourent notre cerveau, on avait des impressions tout à fait extraordinaires que certains auraient pu qualifier d'expériences mystiques ou fantastiques. C'est vraiment...
Donne-moi un exemple.
Écoute, moi, j'étais dans la pièce en question, j'avais le casque sur moi, il a très légèrement fait varier les champs électromagnétiques, comme des variations qu'on retrouve dans la réalité, dans l'environnement, et j'avais l'impression de flotter, et j'avais l'impression qu'il y avait des présences autour de moi. Tu comprends bien que j'étais assis dans un fauteuil très détendu, il y avait de la privatisation sensorielle, je ne voyais pas l'environnement autour de moi, mais j'aurais été prêt à jurer qu'il y avait des gens dans la même pièce que moi, et tout ça, bien sûr, ce n'était pas une manifestation de l'au-delà, mais des manifestations de l'en-dedans.
Ah, c'est très intéressant, c'est très intéressant.
Avec le paranormal, on peut faire de la très bonne science, encore faut-il mettre nos préjugés de côté.
Ça, c'est une belle conclusion.
Oui, ça me fait plaisir, Bernard.
Christian Page, merci. On se reparle vendredi prochain.
Absolument.
Je remercie aussi Larry Dufresne, qui est à la mise en onde et à la réalisation. Alexandra Marcoux et Maryse Duchesneau, qui sont à la recherche. Donc, c'est notre petite équipe qui vous a accompagné pendant toute la semaine. Je vous rappelle, cher public, que si vous voulez participer à notre panel citoyen, faire partie des citoyens qui vont venir en studio poser des questions aux différents partis. Envoyez-nous vos questions. Dites, voici la question que j'aimerais poser à tel parti, à drainville@commercial985fm.ca. Gênez-vous pas, allez-y, on va prendre les meilleurs. Vous pourrez venir en studio les poser vous-même. Ben, je vous souhaite une belle fin de semaine, tout le monde. On se reparle lundi. Salut, Paul s'en vient.